l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous et à toutes, merci à nos auditeurs et à nos auditrices chéries. Deux, ça y est, il y en a déjà une qui sème le bordel.
C'est Laurent, je vais essayer de faire discret.
Parle-moi.
C'est un peu fort dans mes oreilles.
C'est un peu fort dans tes oreilles. Je vais appuyer sur tous les boutons, puis je suis tout seul ce soir, abandonné avec un chien, enfin avec une chienne.
Oui, la mienne en l'occurrence, voilà, qui ne sera pas beaucoup d'utilité pour Boris, mais bon. Bon, Boris est donc en régie. Oui, c'est un soutien psychologique. Donc, vous avez reconnu aussi Laurence.
Bonsoir.
Bonsoir Laurence. Qui est de retour donc, parmi nous après des années et des années d'absence. Donc, j'exagère un petit peu.
Un an.
Voilà. Et toi, tu n'es pas venu seule, tu es venu accompagnée d'une invitée.
Oui. Agathe Lucot.
Agathe Lucot, elle sera la présentée. Bonsoir Agathe. Et puis de mon côté, on a. Alors, je dis de mon côté, c'est à gauche, il y a les garçons, à droite, il y a les filles. C'est très binaire finalement.
Je
ne
sais pas si on est du bon côté, mais on va faire avec.
Alors, donc Sébastien, qu'on connaît déjà.
Bonsoir.
Bonsoir Sébastien, qui n'est pas venu seul lui non plus. Il a emmené quelqu'un sous le bras, que tu peux nous présenter aussi.
Alors Raphaël Gréget, qui est donc le community manager du Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône. Et je suis ce soir au titre du Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône.
D'accord. Très bien. Donc on va parler d'une part santé sexuelle, et d'autre part... On va parler de PMA, mais de façon pas que ça. Voilà.
Plein de choses.
Alors, on va commencer par les dames. Honneur aux dames.
Honneur aux dames.
Voilà. On reste très. Mais les garçons peuvent intervenir aussi dans le débat.
Honneur aux dames.
Si débat il y a, mais au moins dans la prise d'information, parce que en fait, Agathe va nous donner des infos utiles. Parce que tu as pensé qu'il y a des choses ignorées de beaucoup de monde.
Beaucoup de choses.
À l'heure de l'internet et du numérique. Il y a des choses que les gens ne savent pas ou...
Les personnes... Alors là, on va parler des personnes LGBT, forcément. Moi, c'est parti d'un constat très simple, très personnel. Ma fille est née il y a bientôt un an. Mon épouse a été obligée de l'adopter, forcément, parce qu'en France, même si on est marié, il faut passer par la procédure d'adoption. et au moment où elle a voulu commencer à faire les démarches, on s'est aperçu que... Il n'y avait aucune info qui circulait sur le net. Et on a trouvé ça hallucinant, un peu affligeant. Et du coup, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va trouver les infos? Donc on a trouvé de l'aide auprès de l'APGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, où il y a une membre de l'APGL qui s'appelle Nathalie, qui a été vraiment super sympa, qui nous a donné toutes les infos, les démarches à suivre, etc. Après, on s'est dit qu'on n'était sûrement pas les seuls dans ce cas-là, certes, loin de là. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse un point sur les droits. Alors, ce n'est pas juste concernant l'adoption, adoption plénière, ce serait pour la PMA, c'est aussi les droits des personnes LGBT en règle générale, qu'ils soient seuls en couple ou s'ils désirent fonder une famille. Donc voilà, du coup, via la PGL, j'ai contacté Agathe qui est à nos côtés ce soir, qui est avocate et qui a gentiment accepté de participer à l'émission et du coup de nous éclairer un peu plus sur toutes les questions qu'on a sur ces sujets-là. Moi, j'avais une première question qui va peut-être paraître un peu générale. Est-ce que la loi en France protège toutes les personnes?
Ah, c'est un sujet de dissertation, là, que vous me...
Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures.
C'est un vaste sujet, parce que... On a le principe qui est dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est l'égalité de tous face à la loi, qui est une loi qui protège tout le monde. Après, si on prend justement l'article 1er de la Constitution, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. On voit qu'il n'y a pas la question de l'orientation sexuelle dans la Constitution. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si la loi aujourd'hui protège vraiment toutes les personnes, et notamment les enfants qui sont issus de PMA ou de GPA dans les familles homoparentales, bon, même s'il y a eu des évolutions. On peut se poser la question. Vaste sujet.
Mais là, du coup, aujourd'hui, dans la Constitution, c'est pas encore ajouté, l'orientation sexuelle.
Non, c'est ajouté dans la loi, dans le code pénal, qui prohibe les discriminations, mais pas dans la Constitution, non.
D'accord. Et depuis quand c'est inscrit
Alors, les discriminations concernant l'orientation sexuelle, oui. Ça date de novembre 2001, d'une loi de novembre 2001. Donc c'est très récent.
Boris n'était pas né.
Moi non plus. Hein, ouais.
J'avais un an.
Voilà, ça a commencé en fait à bouger dans les années 2000, ces questions de lutte contre la discrimination. Il y a eu la création de la HALD, après qui est devenue le défenseur des droits, etc. Mais oui, c'est 2001. Et aujourd'hui, alors j'ai compté dans le code pénal, à l'époque, il y avait 10 motifs, enfin 10 interdictions de discrimination. Aujourd'hui, il y en a 23, hein, donc c'est constamment élargi et renforcé. Et initialement, on avait l'orientation sexuelle, et depuis novembre 2016, on a également l'identité de genre, okay. Qui peut être un motif de discrimination.
Ok, d'accord.
Voilà.
Et ça changerait quoi? Imaginons si c'était inscrit dans la Constitution, ça changerait quelque chose?
Pas vraiment. Disons que ça protégerait encore plus. Ça interdirait, si vous voulez, aux législateurs de revenir dessus. Mais bon, en France, la réalité, c'est que quand il y a des droits qui sont acquis, on ne revient pas dessus, quoi. Enfin, ça ne s'est jamais vu, mais peut-être que ça se verra dans l'avenir, mais on n'espère pas.
Sait-on jamais. Et du coup, là, fin, on parle de la France forcément parce que c'est notre pays. Régulièrement, on voit dans certains pays, il y a des avancées qui se font, des lois qui se signent plus vite qu'en France. Moi, j'ai toujours l'impression... Moi, je sais que je ne suis pas la seule, qu'en France, on est un peu en retard rapport à certains pays européens.
Je crois que ce n'est pas une impression.
Européens.
Ouais, européens et même à l'international. Hein, y a des pays qui, de manière surprenante, on ne s'attendrait pas à ce que ces pays aillent plus vite que la France, qui se veut la patrie des droits de l'homme et un grand pays au niveau international, et d'autres pays qui vont plus vite. Effectivement, la France, on est clairement en retard, que ce soit sur les questions de filiation. Bon, alors certes, il y a eu le mariage, donc ça c'est acquis. Enfin, ça a été tardif par rapport à d'autres pays. La filiation, ça c'est encore le gros problème, notamment, vous en parlez tout à l'heure, la PMA, la GPA. Et puis concernant les personnes transsexuelles aussi, on ne peut pas dire qu'on soit parmi les plus avancées d'Europe. Hein. Ça, c'est une certitude.
En gros, on va être clair, pour les trans, il existe quoi? À part quoi?
Alors, sur quel... sur les trans...
Comment la loi, en fait, les protège en cas de discrimination, en cas d'agression, ou les protège juste une personne qui est en transition pour le changement à l'état civil, le changement de sexe. Je crois que c'est le parcours du combattant, non ?
Alors, c'est deux choses différentes. Sur la protection des personnes transsexuelles victimes de discrimination, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été introduit récemment. Donc là, il y a une protection à ce niveau-là, comme tout un chacun, sur cette raison spécifique de la transsexualité. Et sur la question du changement de sexe, du changement de prénom, donc là, effectivement, c'est encore un parcours du combattant. Ça a changé récemment, puisque en novembre 2016, encore, une nouvelle loi est passée, la modernisation de la justice du 21e siècle, enfin bref. Et... si vous voulez, ce qui a changé, qui est important pour les personnes transsexuelles, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de justifier d'un parcours médical, donc soit dans un traitement hormonal ou une opération chirurgicale.
D'accord.
Pour pouvoir obtenir un changement d'état civil. Donc ça, c'est très récent. Mais en revanche, il faut toujours faire une procédure devant le tribunal de grande instance pour pouvoir changer d'état civil. Et c'est ça que les associations revendiquent, c'est de pouvoir le faire de manière déjudiciarisée en faisant une simple déclaration auprès de l'officier d'état civil, comme ça se fait dans tout le pays.
D'accord, ok. Mais il y a quand même toujours passage devant un psy.
Alors ça, c'est dans les, pour les traitements, savoir si on rentre dans le protocole ou pas dans le protocole. D'accord. Je vous avoue que sur la partie médicale, je ne suis pas tout à fait au point. Mais oui, c'est sûr que dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour pouvoir apporter la preuve que sa demande de changement d'état civil, elle est fondée, elle est en adéquation avec ce qu'on est réellement. Oui, une attestation d'un psy va être bienvenue. Hein,
oui, puis il faut des témoins aussi. Des témoins comme quoi la personne vit avec toutes les attributs sociaux, du sexe opposé en permanence, etc.
Voilà, c'est ça. Le texte, maintenant, il nous demande une réunion suffisante de faits, en fait, pour prouver que la personne est bien du sexe qu'elle... qu'elle veut que l'état civil soit modifié, quoi.
J'ai vu un reportage, je sais plus, la semaine dernière, je crois, c'était sur les enfants transgenres aux États-Unis. Ah, alors, oui. C'était ciblé en Californie, parce que la Californie, apparemment, c'est l'état des États-Unis, puis bon, apparemment, dans le monde. Après, je connais pas toutes les lois de tous les pays, mais où il y a une facilité, il y a vraiment un soutien, une prise en charge. Des personnes, en gros, dès qu'elles sont enfants, parce que voilà, tout le monde sait, quand un adulte trans parle aujourd'hui en tant qu'adulte, il dit « moi je sais depuis que j'ai 3 ou 4 ans que je suis un garçon, que je suis une fille au fond de moi », quoi. Et là, il y a vraiment... on a vraiment l'impression que les enfants, ils ont... Il n'y a plus la censure, en fait. Il y a vraiment une liberté d'exprimer ce qu'ils ressentent au fond. Bon, là, après... dans le reportage que j'ai vu, bon, ils ont eu plutôt du bol parce qu'en plus ils sont tombés dans des familles avec des parents absolument géniaux, très ouverts d'esprit, qui voulaient tout simplement que leurs enfants soient heureux. Enfin voilà, la base, quoi, le minimum, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, en Californie, mais tout est fait et simplifié pour que ça se passe dans le meilleur des mondes et pour que les personnes trans souffrent le moins possible et n'aient pas à traîner, j'allais dire, ce mal-être comme un boulet toute leur vie, quoi. Je sais plus les délais, ils avaient... mais je crois que c'était en une semaine, je crois, pour juste changer le prénom et le sexe sur la carte d'identité.
Oui, mais... c'est ça, c'était une simple déclaration. Ouais. Et ben non, malheureusement, on n'en est pas là encore en France. Alors, il y a un service à Paris, dans un, je sais plus quel hôpital, qui prend en charge les enfants. Après, je ne sais pas exactement à quel âge ils proposent de commencer les traitements hormonaux, mais bon, je pense que ça avance quand même en France malgré tout, même si effectivement on ne peut pas dire que ce soit le pays le plus avancé sur la question.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de médiatisation de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas en fait des peut-être pas des lois, parce que je pense qu'on le saurait, mais des choses qui avancent, comme là par exemple vous parlez de l'hôpital qui prend en charge les enfants transgenres. Est-ce qu'il y a des avancées comme ça où les personnes LGBT ne sont pas tenues au courant, enfin ne savent pas que ça existe ou qu'elles pourraient avoir de l'aide à Paris, à Lyon ou ailleurs
Ah oui, bah, certainement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous êtes penché sur la question de l'adoption pour votre enfant. Certainement qu'il y a des choses que les gens ignorent. Par exemple, récemment, il y a un décret qui est passé là, en plein mois d'août, qui a aggravé les peines pour le délit de... Enfin, c'est une contravention en l'occurrence, mais l'infraction d'insultes homophobes, transphobes, etc., en milieu privé, non pas en public. Voilà. Donc ça, c'est passé en plein mois d'août. Évidemment, personne ne l'a vu. C'est passé. Donc oui, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on rate. On ne peut pas non plus tout savoir, mais dans tout milieu... et quand on commence à s'intéresser à la question, on trouve les informations.
Oui. Enfin, ouais, après, je sais pas, je suis peut-être chiante, mais moi, je trouve que c'est pas assez montré, visible, les aides.
Il y a quelque chose à faire, alors. Hein.
Ouais, mais oui, sûrement, oui. Allons-y.
En ce qui concerne la transidentité, il y a aussi des associations qui sont très actives. Hein. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va recevoir Bon, Yvan, qui n'a rien à voir.
Mais qui va me présenter. Quelle nouvelle !
Yvan. Bon, il va nous parler de Kobe. C'est un film donc, qui va sortir dans peu de temps, sur, en avant-première avec écran mixte, sur transition femme vers homme, en fait. Et puis, il y aura aussi la présence de Florence, du Jardin d'été. Mmh. Puisqu'il y a une agression transphobe très grave qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand, mmh, il y a quelques semaines. Et il y a une manifestation qui est prévue à Lyon. Voilà. Donc, la semaine prochaine, justement, la thématique, le thème sera, d'accord, très transidentitaire. Et puis, alors, pour revenir un petit, oui, peu aux enfants de la PMA, aux enfants de couple, de femmes, par exemple, qui ont fait une PMA. Alors déjà, la PMA, il faut préciser, c'est illégal en France. Jusqu'à maintenant, c'est illégal.
Alors, pour les couples de femmes, oui.
Pour les couples de femmes, oui, bien sûr.
Il faut être hétéro.
Et les femmes célibataires.
Et les femmes célibataires, voilà. Il faut être hétéro et ayant des troubles de la fertilité pour y avoir accès en France aujourd'hui. Mmh. Tout à fait.
Donc, ça, on a beaucoup entendu parler, enfin, nous, ce qui sommes concernés, de la promesse de campagne de Macron. Alors, qui d'un côté a dit « Je suis favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules, les couples de femmes. Il n'y a pas de justification juridique pour que la PMA ne leur soit pas ouverte. » Très bien. Mmh. Mais dans le même temps, il disait, ouais, mais pendant le mariage pour tous, quand même, la loi, on n'a pas bien ménagé certaines opinions. Mmh. Voilà. Bon, déjà, ouais, on se dit, bon, d'un côté, il donne, de l'autre côté...
Oui, il était en campagne, classique.
Voilà.
Voilà. Oui. Mais enfin, à mon avis, il devait quand même se douter que peu de gens de la manif pour tous iraient voter pour lui, quand même. Enfin, je sais pas, c'est pas qui voulait...
Tu sais, quand ils sont en campagne, ils essayent de...
Ils étaient plutôt Fillon, mais bon, Fillon, ouais, on sait ce qu'il en est advenu. Donc du coup, ensuite est arrivé, récemment plus dans le calendrier, c'était pas prévu, mais Marlène Schiappa, la secrétaire d'État donc à l'égalité femme-homme, dans cet ordre-là, femme-homme, a dit « Ouais, mais c'est super, vous allez voir, je sais plus dans quel média, en 2018, la PMA pour toutes, femmes célibataires, un couple de femmes. » Puis soudain est apparu le ministre de la Santé. Là, elle est sortie de sa boîte, elle a dit « Oula, doucement, on va se calmer, n'est-ce pas, dans un autre média ?» On va se calmer, peut-être bien que, oui, on en parlera dans le cadre de la loi bioéthique, d'accord, mais c'est pas sûr, il faut attendre déjà le rapport des gens qui sont consultés pour la loi bioéthique. Bon, on essaye de faire en sorte que ça soit fait, mais probablement, mais on sait pas trop. Bon, voilà. Bref, on retrouve un discours qu'on a déjà entendu souvent de la part des politiques, malheureusement. Et puis, paf, notre ami Colomb, il a fallu que lui, il se manifeste, mais...
On peut pas s'empêcher.
Dans Lyon Mag, j'ai partagé sur la page Facebook de l'émission Lyon Mag, où ils disent, sur Lyon Mag, Colomb plutôt frileux. Mais il n'est pas frileux, il est contre
il
la
est
PMA.
Contre, ouais. Mais tu as oublié aussi autre chose, quand ils ont commencé à parler de la PMA, ils ont parlé de l'histoire de remboursement. Ça serait pas pris en charge.
Oui.
Apparemment, ce serait autorisé pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Mmh. Mais par contre, elles devraient tout payer de leur poche. Mais,
alors ça, c'est parce que le CCNE, le comité, ou je ne sais plus dans le national d'éthique...
Comité enfin, consultatif,
qui n'est que consultatif d'ailleurs. Alors Hollande s'était retranché sous la vie, derrière la vie du comité, pour repousser la PMA au calendrier grec. Et du coup, 4 ans après que le conseil en question, là, le comité consultatif ou conseil consultatif a été donc mandaté pour réfléchir à la question, 4 ans après, ils donnent leur réponse et ils disent « Ok ». Mais dans leur réponse, ils disaient « Bon, ça va, éthiquement, c'est possible ». Mais il y avait l'histoire, effectivement, du remboursement, je crois.
Oui, hein, c'est ça.
Non-remboursement,
c'est
etc.
Ça.
Donc ça crée de fait encore, de facto, une nouvelle discrimination.
Oui, oui, parce que ça doit être du principe que c'est une PMA de confort, entre guillemets.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Oui, parce que, voilà. Alors, la PMA est autorisée, comme vous le disiez, pour les personnes, les couples hétérosexuels. Voilà.
C'est ça.
Reconnu stérile.
Reconnu, voilà, qu'il y a des problèmes d'infertilité.
Et si cette loi passe, elle aura pour but, donc, d'étendre la PMA à tout le monde, en fait.
Voilà,
à tous,
c'est
et
ça.
À tout, on va dire.
C'est effectivement ce dont on a entendu parler, après, bon.
Mais en fait, je comprends pas. Ce comité, enfin, j'allais dire, il sert à quoi? Enfin, est-ce que... Non, mais... non, mais je me demande, en fait, est-ce que le gouvernement, il a... Enfin, dans la Constitution, je ne sais pas. Est-ce qu'un gouvernement, il a pas... obligation que tous ses citoyens soient égaux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a le droit de demander l'avis à ce comité? Est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que si on creuse un peu dans les textes de loi, je ne sais pas...
Alors oui, il a le droit de demander l'avis de ce comité. C'est même tout le but de l'existence de ce comité qui avait été fondé par Mitterrand dans les années 80. Voilà, ce comité, il existe pour être consulté par le président, par le gouvernement, par qui veut. Donc c'est légal de le de consulter. Après, est-ce que l'État doit faire en sorte que tous ses citoyens aient les mêmes droits ? C'est ça, c'était ça.
Oui, c'est ça.
Bah oui, c'est, on rejoint un peu le début de notre conversation. Sur le principe, oui. Après, il y a aussi un autre principe qui nous dit qu'à situation différente, traitement différent. Et ça, c'est légal aussi. Enfin, c'est un principe du droit de dire que bah, vous n'êtes pas dans la même situation, vous pouvez avoir des droits différents. Et c'est, voilà, c'est admis.
Alors, moi, ce qui me surprend un petit peu aussi, c'est que la PMA est incluse dans une loi générale de bioéthique. Qui concerne, qui va concerner par exemple
la fin de vie,
etc. Alors, on comprend que la fin de vie soit dans une voie de bioéthique, mais pas la PMA, puisque c'est déjà une technique employée. Alors, pourquoi ça dépend du ministère de la Santé ? Alors, Schiappa, elle, à la limite, elle parlait en tant qu'un ministère des droits de l'égalité femmes-hommes, elle dit c'est justice sociale, ok. Et puis, la ministre de la Santé, attendez, on va pas s'en emballer. Bon, mais c'est, en fait, c'est la ministre de la Santé, c'est le ministère de la Santé dont va dépendre la PMA. Donc, on met dans l'idée des gens que la PMA, c'est une histoire de
médical.
Quoi, de médical.
Bah, c'est un acte
alors
médical.
Alors, c'est un droit. Oui, c'est alors, un acte médical.
C'est un acte médical.
Mais qui est pratiqué déjà. Donc, on sait faire.
Ah, bah oui, ça.
Qu'on fait
ça,
pour un certain nombre de personnes.
Oui,
voilà.
On sait faire beaucoup de
et
choses.
Et on sait que certaines personnes en sont exclues en France.
Bien sûr.
Donc, ça devrait être. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé. Ça m'a un peu choqué, l'histoire du ministère de la Santé. Que le ministère tutelle, la loi devrait être sous la tutelle du. Enfin, c'est le ministère des droits, égalité femmes-hommes, qui devrait le présenter au Parlement.
Ouais. Enfin. Non, mais je comprends bien votre position. Après, voilà, c'est la France et on est un pays, quand on regarde à l'échelle européenne et même mondiale, on est un pays conservateur. Hein.
On marche toujours sur des œufs, en plus, on a peur de tout.
Bah, vous avez vu la manif pour tous qui s'est déchaînée depuis une semaine, et sur les réseaux sociaux, ils sont très dans la communication. Donc,
ils disent pas de PMA sans père, en fait. C'est ça.
Oui, bah,
en fait, ils veulent le maintien. Voilà.
Ce qui se passe actuellement.
Moi, je voulais qu'on parle aussi de l'adoption.
Oui.
Parce que alors, moi, c'est pareil, l'adoption.
Oui, voilà, parce qu'un cas, à l'heure actuelle. Non, mais c'est vrai, à l'heure actuelle.
Il aime beaucoup ces questions, ce débat.
À l'heure actuelle, la PMA n'étant pas reconnue. Oui. Par contre, les enfants nés d'une PMA pratiquée à l'étranger, la maman est reconnue, évidemment, la maman biologique, celle qui a porté l'enfant.
Bien sûr.
Mais la maman seconde, qui a autant de droits que la maman première, elle n'a aucune légalité, même si elle est mariée. C'est ça, le souci.
C'est ça. Non, elle n'a aucune légalité.
Par rapport à l'enfant.
Par rapport à l'enfant, dans un premier temps, mais dans un second temps, elle va adopter cet enfant, et là, elle va devenir son second parent.
Oui, mais on est obligé de passer par
l'adoption. On est obligé de passer par l'adoption. On n'est pas encore, malheureusement, au point de la Belgique, eux, ont le principe de... même pas besoin de le reconnaître, d'ailleurs. Quand les femmes sont mariées, c'est automatique. La deuxième filiation est établie.
Mais en Belgique, la PMA est autorisée.
Ah oui, en Belgique, bien sûr.
Et concernant l'adoption, un couple homo qui veut adopter,
Alors il y a deux cas de figure. Le couple homo, il veut adopter l'enfant de l'autre ou il veut adopter un autre enfant.
Il veut adopter un enfant. En tant que couple marié, il s'est marié, il va dans une agence d'adoption, il veut adopter un enfant.
Oui, alors sur le principe, sur le papier, il a autant de chances et de droits que un couple hétéro. Après, dans la pratique, je crois que malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Il y a peu d'enfants qui sont adoptables en France par an. Je crois que c'est à peu près 800 par an, donc c'est vraiment rien. Et ben, d'après ce que j'ai compris, ces enfants, ils sont réservés, entre guillemets, pour les couples hétérosexuels que les couples homosexuels.
Il y a des pays qui ont clairement dit qu'ils refusaient que leurs enfants soient adoptés par des couples homosexuels.
Oui, la Russie, la Chine. Il n'y a que deux pays au monde qui acceptent expressément que les enfants, leurs ressortissants soient adoptés par des couples homo ou des homo célibataires. C'est le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc c'est encore très compliqué l'adoption pour un couple homo aujourd'hui.
Bon, donc moi je suis une maman lesbienne par exemple. J'ai accouché, mon fils ou ma fille, je suis super heureux. Mais ma femme, elle, on épouse la partenaire de vie, n'a pas le droit, n'a pas de filiation reconnue vis-à-vis de l'enfant. Donc, on va faire la procédure.
Oui.
Comment ça se passe, ces procédures classiques d'adoption?
Oui, c'est une procédure.
C'est long.
Alors, à Lyon, pas spécialement long.
Par contre, on doit attendre 6 mois.
Voilà. Alors,
l'adoptant.
Alors ça, c'est le débat du moment, parce que le Code civil prévoit un délai de 6 mois. La PGL et puis les avocats aussi qui interviennent en droit de la famille et des droits LGBT considèrent que ce délai de 6 mois s'applique que pour les adoptions d'enfants qui viennent de l'extérieur, si je puis m'exprimer ainsi, pas pour l'enfant du conjoint. Donc là, on essaye de faire bouger les lignes en ce moment. Dans d'autres TGI, comme à Paris, par exemple, ils prononcent des adoptions pour des enfants de moins de 6 mois. Donc, voilà, moi, avec mes petits dossiers, en ce moment, j'essaye de faire bouger Lyon, mais c'est pas évident. Voilà.
Ça dépend de qui, l'adoption. La demande se fait à qui, d'ailleurs?
C'est le tribunal de grande instance qui est compétent.
Voilà. D'accord.
Et après, voilà, c'est une question.
Il faut déposer un dossier,
oui,
circonstancié.
C'est une requête avec des pièces justificatives obligatoires à déposer.
Témoignages éventuellement de proches.
Est-ce qu'il peut y avoir un refus?
Il peut y avoir un refus au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je ne l'ai encore jamais vu, mais c'est possible.
C'est arrivé, une connaissance, une amie d'une amie, à qui c'est arrivé à l'époque, elle vivait à Bourg, en Bresse.
Ah oui, Bourg.
Ouais. Et en fait, leur enfant est né de PMA en Belgique, il me semble. Et du coup, en gros, le dossier d'adoption a été refusé parce que le bébé venait d'une PMA et que la PMA n'était pas autorisée en France pour les couples de femmes.
Mais elles étaient mariées?
Oui.
Oui, c'est obligatoire.
T'es obligé, tu dois être mariée. Hein.
Alors pourquoi ils...
Non, alors ça, ça a été effectivement au début le grand jeu de certains tribunaux du type Versailles, Bourg apparemment, un peu conservateurs, qui ont dit « Ah non, la PMA, c'est pas légal, c'est une fraude à la loi, je refuse de prononcer l'adoption ». Là-dessus, la Cour de cassation s'est prononcée. Elle a été saisie par des juges justement qui ne savaient pas quoi faire et elle a dit pas de fraude à la loi, intérêt de l'enfant, on prononce les adoptions. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle vient de dire aussi la Cour de cassation pour les enfants nés de GPA en disant on prononce les adoptions aussi, même si ce n'est pas autorisé en France.
La PGL est une association, un interlocuteur idéal pour les personnes justement qui ne savent pas trop.
Oui.
Que faire par rapport justement à la reconnaissance d'une filiation dans le cadre d'un couple homoparental? PGL peut donner des renseignements utiles qui sont difficilement trouvables, disait Laurence ailleurs.
Oui, oui, bien sûr. Mm.
Oui, la PGL, c'est une association qui existe depuis longtemps, qui est très bien structurée, avec des commissions. Il y a une commission juridique notamment qu'on peut consulter. Même sur leur site internet, il y a un espace adhérent avec des informations. Oui, ça peut être un bon moyen d'avoir de l'information.
Alors, moi, je dirais 2 choses, parce que ensuite on va se tourner vers les garçons. Avec la suite, on va passer à la suite. Avant, on écoutera une petite chanson. Hein, mon petit Boris, t'es pas endormi là-bas, c'est bon?
C'est Boris qui chante.
Oui, c'est Boris qui a chanté.
Je suis là, je vous écoute attentivement.
Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, moi, personnellement.
Hein, il est là, il nous écoute.
Oui, oui, oui. D'accord. Bon, non, je n'avais pas entendu ce que tu disais. Dans le casque, j'entendais rien. Mais bon, c'est comme ça, pas grave. Pendant les mois qui vont venir, on va avoir encore des moments éprouvants, je pense.
Oui,
parce que
mais...
ça va durer comme pour le mariage pour tous. Mmh. On va aboutir à quoi, on ne sait pas trop. Peut-être quelque chose de tordu, de pas complet, comme pour le mariage pour tous.
Non, mais ce qui est fou quand même, c'est que c'était une promesse de campagne, déjà de François Hollande, qu'il n'a pas honoré. C'était une promesse de campagne qu'Emmanuel Macron avait mis sur le tapis. Et qu'aujourd'hui, c'est reculade après reculade. Donc on ne sait pas, on nous annonce peut-être 2019 maintenant. Derrière ça, c'est des familles, c'est des vies, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui partent à l'étranger, d'autres qui attendent parce qu'elles refusent d'être dans l'illégalité et qu'elles souhaitent, elles, pouvoir le faire, d'être reconnues, que la France reconnaisse qu'elle ne soit pas prise pour voilà.
Il faudrait quand même, mine de rien, c'est pour la sécurité de l'enfant. Il faut bien qu'ils se mettent dans la tête que de toute façon, une personne qui veut faire un enfant, elle en fait un.
Tout à fait. Et puis, c'est non seulement pour l'enfant, mais même pour les familles, parce qu'on voit tout type de système de procréation. Hein, si vous me... enfin, il y a celles qui vont à l'étranger, mais il y a aussi celles qui ont recours à des donneurs rencontrés sur Internet. Enfin, on peut se retrouver dans des situations d'insécurité juridique totale avec voilà, le type qui finalement va reconnaître l'enfant, avec, je ne sais pas, on peut imaginer vraiment des situations assez ubuesques. Et voilà, le fait de ne pas légiférer, le fait de maintenir une interdiction, ça crée des situations qui sont totalement intolérables. Effectivement, après, et je ne suis pas non plus très optimiste, c'est peut-être à cause de mon métier, je ne sais pas. Moi, je pense que même si la PMA est autorisée en France, ça va faire à peu près comme pour l'adoption. Parce que la banque de sperme française, je ne suis pas sûre qu'elle soit bien garnie. Contrairement aux banques de sperme
étrangères. Bon, les gars,
non, mais, soyons clairs. Non, mais soyons clairs. Voilà, en France, c'est du don. À l'étranger, c'est rémunéré. Donc, peut-être que... Voilà. Ouais. Donc, le peu qu'il y a, eh ben, peut-être qu'il va être plutôt réservé à certaines personnes. Et moi, voilà. Bon, je ne suis pas très optimiste. Je suis désolée.
En effet, vous n'êtes pas très optimiste. Alors, là. Non, mais oui, après, il y a une réalité à laquelle il faut penser, malheureusement. Oui.
Alors, donc, puis, comme disait Boris, on peut s'inquiéter aussi par rapport au gouvernement actuel, parce qu'on a d'un côté le chaud et le froid. Comme je disais, Macron déjà avait commencé à ménager la manif pour tous. Maintenant, on a notre ami Collant. Je ne peux pas m'empêcher d'en reparler, parce que récemment, il a pris position. En fait, il reprend les arguments de la manif pour tous. D'abord, il dit « Oh, mais il y a des choses plus urgentes que la PMA, pour commencer. Il y a le chômage. Quel rapport ? Il n'y a rien. »
Il y a plein de choses urgentes à régler dans le pays. Ce
n'est pas la préoccupation des Françaises et des Français. Ben, merci de parler en leur nom. il évoque des lois sensibles qui pourraient heurter la sensibilité d'une certaine personne. Donc on pense évidemment à Manif pour tous, etc., etc. Et puis il a sorti une grosse connerie, il a dit mais on va tous être incestueux, je ne sais pas quoi, cousins.
Oui, on va tous être cousins ou d'un.
Alors que la loi prévoit quand même justement...
Christine Boutin sort de ce corps.
Oui, bah Christine, elle serait contente puisqu'elle est mariée
de son. Oui, de toute façon, elle pas... voilà. Elle se sentirait moins seule.
Donc du coup, voilà. Et puis... pour terminer, pour Klopp, on va passer la chanson, passer au garçon. Alors, il y a une chose, il y a maintenant un cadenas qui est mis sur la GPA, parce que même ceux qui sont défenseurs de la PMA disent ne mêlez pas les deux par pitié. Parce que la GPA, c'est encore pire que la PMA. Alors là, tout le monde, toute la manif pour tous, tout, ça va être un déchaînement. D'autant plus que la GPA ne fait pas l'unanimité vraiment dans la société française, parce que c'est mal connu. Et puis c'est souvent connu sous l'aspect le plus négatif, celle des mères porteuses rémunérées à l'étranger, etc., des machines à enfants, etc.
Voilà. Mais pourtant, juge Gérald, quand même, sur cette question-là, les choses, elles étaient très claires. Ceux qui mélangent PMA et GPA, ils font aussi l'amalgame.
Oui, ils le font exprès.
Ils le font exprès. Ah oui.
C'est pour ça qu'il faut justement, il faut y aller sur des œufs. On dit attention, il y a la PMA et la GPA, on en parle.
Aujourd'hui,
après,
si je peux me permettre, le PAC entre guillemets, c'était le mariage et la PMA. Ils en ont fait que la moitié et aujourd'hui, ils veulent même pas, ils veulent même pas honorer les promesses de campagne.
Que d'une fesse, comme on disait avant.
Alors, c'est un peu reparti pour un tour avec les excités là de la manif pour tous. Hein.
Ouais. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Ça, oui, non, mais des épisodes fabuleux là. Christine Boutin va
ils vont se réveiller après Noël. Là,
ça elle va nous refaire son coup de tomber dans les pommes dans la rue. Enfin, ça va être une catastrophe. Enfin, je le sens. Ils attendent trop, comme d'habitude. Ils hésitent, ils sont sur des œufs et ils sont pusillanimes.
Surtout
voilà.
Que quand il s'agit de faire passer des lois en plein mois d'août ou alors le 31 décembre, ils savent faire.
Oui, hein, voilà, exactement. Bien, mon petit bobo, eh ben, on va mettre la chanson prévue, c'est Nothing for Granted. C'est une chanson qui est issue d'un programme, ça s'appelle, un projet musical qui s'appelle Les Funambules, dont j'ai parlé la semaine dernière, j'avais déjà parlé auparavant, qui est un projet caritatif pour la lutte contre l'homophobie. Projet
très
musical.
Bien.
Je suis déjà ta maman, mais je ne te connais pas. J'ai patienté toute ma vie pour ça. Je te garde depuis toujours une place dans le creux des bras. Je suis déjà ta maman, mais je ne te connais pas. Je lis, j'écris, je remplis les cases et j'attends. Je tricote, je cuisine, en fait j'apprends à cuisiner. Je révise mes vieilles leçons de français. Je parle, je cherche, je cachets et mes angoisses du passé pour te préparer. Et j'aime, je m'entraîne à aimer. Et elle m'apprend tous les jours un amour qui grandit, qui s'étend. On t'attend, nous sommes déjà ta maman et on t'attend. Adventure, my darling, my sweetness, my dearest friend, I will stand with you to the bitter end. Let's go, let's go. What an adventure, my darling, my sweetness, my dearest friend, I will stand with you to the bitter end.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Eh bien, nous voilà de retour dans les studios. Dans les studios, tout de suite, ça jette.
Les studios de Radio France.
Voilà. Alors maintenant, ça va être la partie des garçons. Ça va être aux garçons de jouer. Le répertoire garçon. Mais l'avocate est restée, pas partie.
Ah bah oui.
Elle est avec nous, elle ne s'est pas enfuie. Et là, on va parler...
En fait, peut-être que vous vouliez partir, non?
Non, ça m'intéresse.
Bon. Alors là, on va parler plus de santé sexuelle. Je me tourne vers Raphaël Grégé, qui est donc référent, c'est ça, au Corévi.
Je m'occupe de la communication, oui, au Corévi.
Voilà. Et il se passe des choses. Oui, tout va bien. Oui, ça va.
Oui.
Raphaël, on souffle, ça va bien se passer. Donc, en fait, on va parler de santé, santé sexuelle, donc IST, VIH, mais aussi hépatite A.
Tout à fait.
Voilà. Alors, vas-y, je te laisse parler.
On va surtout commencer d'abord par Break the Chains, donc, pardon, qui est...
Alors, Break the Chains.
Break the Chains, oui, qui est donc une action qui existe en Suisse depuis quelques années et qui démarre cette année à Lyon par l'initiative du Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône depuis le mois de septembre. On a commencé début mois de septembre. Donc le principal objectif de cette campagne, c'est de réduire la charge virale communautaire au VIH chez les HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et de réduire le nombre d'hommes non diagnostiqués en phase de primo-infection. Donc voilà, donc cette...
C'est l'objectif numéro un.
C'est l'objectif.
C'est vrai que la primo-infection, il faut peut-être redéfinir ce que c'est cette phase où la personne vient d'être contaminée, où elle ne se ressent pas obligatoirement toujours des symptômes de fatigue, qui peuvent arriver, mais pas toujours. Et sans symptômes, elle continue sa vie, tout simplement. Et même si elle faisait un test, le test pourrait être négatif, puisqu'il faut au minimum 21 jours avec un test, on va dire, une prise de sang classique en laboratoire ou en centre de dépistage anonyme et gratuit. Et avec le dépistage rapide, ça serait encore plus loin. Donc, dans les premiers jours, le test pourrait être négatif et pour autant, la personne serait contaminée. Et c'est le moment où la charge virale du VIH est la plus importante. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le maximum de contamination, notamment chez les HSH multipartenaires et qui donc ont plusieurs rapports avec différentes personnes dans la même semaine. Je redonne la parole à notre ami.
Donc du coup, avec le Corivi, on a lancé la campagne début septembre. Donc cette campagne s'articule en quatre temps forts. Septembre, c'est le mois d'engagement, donc celle où on profite de faire de la promotion en terrain, on va dire les soirées clubbing, les saunas, enfin tous les lieux de rencontre gays, HSH. Et pendant cette période, on essaye d'engager un maximum de personnes. Donc l'engagement se passe donc dans les lieux que je viens de dire. Et on essaie de sensibiliser tout d'abord à la primo-infection, de savoir quels sont les types de contraception que les HSH utilisent, s'ils se protègent souvent, qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces moyens
de prévention.
Et donc à la fin, on leur demande de remplir un questionnaire, de signer un acte d'engagement moral pour les mois qui suivent, les mois donc d'octobre et novembre. Octobre, où le HSH doit se protéger, donc il s'engage à se protéger pendant tout le mois d'octobre avec le préservatif ou la PrEP.
Et ou la PrEP.
Donc la PrEP...
La prophylaxie pré-exposition, hein, qui est dorénavant... alors, malheureusement, très souvent, on dit, ben voilà, c'est juste un cachet. Non, pas du tout. C'est un ensemble de services qui va être mis en place pour les personnes qui ont des difficultés de prévention, à la fois avec effectivement l'administration d'un antirétroviral, qui est donc le Truvada, mais surtout une mise en place
d'un suivi
médical où il y a à la fois dépistage des infections sexuellement transmissibles, mais aussi on va dire l'ensemble du suivi biomédical, hein, donc des prises de sang, etc., pour voir s'il n'y a pas de problème d'atteinte sur les reins notamment, parce que c'était le gros problème au début de la mise en place de la PrEP. Maintenant on sait que c'est un pourcentage très faible de personnes qui sont effectivement attachées, qui ont un problème, on va dire, avec le Truvada. Mais pour autant, il faut un suivi médical. Il ne faut surtout pas partir dans le principe de faire une PrEP sauvage. Donc il ne faut pas écouter ses petits copains, il faut surtout écouter son médecin. Voilà, ça c'est le premier truc à dire. Et puis donc je repasse la parole à Raphaël, et après je vous parlerai du questionnaire en lui-même.
Donc c'est le mois d'octobre où les HSH s'engagent donc à se protéger dans tous les rapports sexuels qu'ils peuvent avoir pendant ce mois. Et on leur demandera bien sûr de le faire davantage s'ils le souhaitent, mais voilà, pour l'action, c'est pendant tout le mois d'octobre. Et ensuite, on les invite à aller se faire dépister dans les Cégides de la région, ou bien sûr les laboratoires... Dépistage sanguin, oui. Donc voilà, on les invite à se faire dépister pendant le mois de novembre afin de vérifier s'ils ont tenu leur engagement qu'ils avaient signé en septembre.
Surtout voilà. Voir si on peut faire tomber des primo-infections, s'il y en a qui résistent en plus.
C'est une forme contractuelle en fait que vous engagez
contrat qui a un but réel, c'est de faire baisser la primo-infection au sein de la communauté. Donc c'est pas simplement un engagement individuel, on les amène vraiment à réfléchir sur la santé communautaire et comment agir quand on est un groupe. Et un groupe qui devrait être solidaire sur la santé.
Les lieux d'action, c'est les lieux commerciaux, quoi, de rencontres.
Les bars, les discothèques,
D'accord. Est-ce que vous allez aussi sur des lieux, il en existe encore, paraît-il, je ne pourrais le témoigner. Voilà.
Oui, nous allons aller justement dès demain, nous allons à la Fessine, et puis on va être à Miribel, à Port-Galant, on va être aussi à Gerland le soir, enfin on va être un peu partout.
Donc malgré les réseaux sociaux...
Le soir, mais ça c'est très vaste ça, Gerland le soir, on a besoin de lieux précis.
On verra demain entre 22h et minuit, 1h du matin à peu près, on sera là-bas. Okay. Oui, oui, non, non, on a pas oublié les lieux de rencontre extérieurs, et puis on va être surtout beaucoup aussi sur les applications Grindr, Hornet. Ouais,
c'est ce que j'allais dire.
Pour aller chercher justement des personnes et les faire venir aussi s'engager auprès du Centre de santé et sexualité de Lyon, que vous connaissez tous maintenant, puisque c'est 5 rue du Griffon, tous les soirs, 18h, 21h en semaine, et puis le samedi aussi de 15h à 19h avec la présence de l'association Aide. Vous avez la possibilité de rencontrer un médecin. Et il y a aussi donc des spécificités, puisque le mercredi c'est plutôt pour les femmes, le mardi ce sont les sexologues qui vous invitent, et le premier mercredi de chaque mois vous avez les addictologues du XAPA pour tout ce qui est chemsex notamment. Donc et puis maintenant il y a même des groupes de parole qui ont lieu le jeudi. Donc on en revient à nos moutons. Donc oui, le but c'est effectivement de parler de cet engagement communautaire à l'ensemble de la communauté HSH du Grand Lyon. Et pour cela, on va à leur rencontre et on espère aussi qu'ils vont venir vers nous à travers les réseaux sociaux. Je repasse la main la parole.
Je continue sur ce que tu dis avec donc les réseaux sociaux. Oui, on essaie de développer un maximum la visibilité de l'action, que ce soit sur Facebook. On a développé un site aussi pour cette action spécifiquement. On essaie vraiment de booster à fond pour avoir un maximum de retours, avoir un maximum d'engagement, et que on espère avoir le maximum de résultats à la fin du mois de novembre, quoi.
Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que on leur remet un jeton à chaque participant pour qu'ils aillent ensuite. Effectivement, ce jeton est une sorte de coupe-fil pour qu'ils puissent passer effectivement dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. On sait que c'est pas toujours évident parce que malheureusement il y a beaucoup de monde, et donc tous les participants pourront donc faire leur dépistage en novembre, voire début décembre s'ils ont pris une prise de risque un peu juste avant, en septembre. Et n'oublions jamais, les fenêtres de séroconversion, c'est un mois et demi pour le dépistage sanguin. Et donc, avec ce jeton, nous allons pouvoir ensuite évaluer, effectivement, le nombre de personnes qui seront fait dépister par rapport au nombre de personnes qui se sont engagées. J'ai tout dit. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a fait des outils. Je vais laisser Raphaël parler de
ça. Tous les outils, le site internet, on a fait une grosse campagne d'affichage, on a démarré en cet été pour faire tout le teasing, ouais, c'est ça, juillet, août. On s'est basé sur une campagne, avec des super-héros. En fait, c'est les Suisses qui avaient démarré avec ce super-héros, mais c'est vrai qu'à l'inverse des Suisses, nous, on ne peut pas proposer une offre prix. Les Suisses, pour le dépistage, je crois que c'est 50 francs suisses, et que pour l'opération Break the Chains, ils passent à 10 francs. Donc voilà, ça leur ramène énormément de monde parce qu'il y a cette offre prix. Nous, on a un dépistage qui est gratuit en France, donc il fallait qu'on trouve un peu une autre astuce pour faire connaître l'action, que ça donne envie aux concernés de s'intéresser à ça, et de la rendre un peu plus humaine. Donc, on a fait appel à plusieurs copains qu'on a pris en photo, et tout le monde a joué un peu le jeu du super-héros. Et voilà, le but, c'est un peu de transmettre le message soyez un super-héros et engagez-vous à briser la chaîne de contamination.
Donc, du coup, tu peux faire un appel aussi, Raphaël. C'est qu'on a, je crois, un compte Instagram, c'est
ça ? On a un compte Instagram.
Vous pouvez vous prendre en photo avec le masque de votre désir, que ce soit le masque de Zorro, le masque de Batman ou de Spider-Man. En tout cas, vous avez la possibilité. Wonder Woman. Voire même de Super Jimmy, pour ceux qui connaissent. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur notre Instagram. On va peut-être rappeler...
Facebook.
Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, le truc le plus important, c'est d'aller sur notre site. Le site, c'est c2slyon.fr ou .com. On a les deux maintenant, depuis peu. Et donc, sur ce site, on vous réexplique absolument tout de Break the Chain, pourquoi, comment et comment ça se passe.
Les lieux de dépistage, les CGI.
Voilà. Je reviens un peu sur le questionnaire. Donc, On leur pose trois questions très simples. Hein. Connaissez-vous la primo-infection? Oui, non. Au cours des 12 derniers mois, estimez-vous avoir pratiqué une pénétration anale non protégée avec un des partenaires occasionnels, sans préservatif ou sans PrEP? Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait un ou plusieurs tests du VIH? Et puis après, on leur pose vraiment deux questions intéressantes. Si vous deviez convaincre un de vos amis de porter le préservatif pendant un mois, que lui diriez-vous? Notez vos arguments en quelques lignes. Et si vous deviez convaincre un de vos amis d'aller se faire dépister, que lui diriez-vous? Et c'est en fin de compte, effectivement, une démarche qui permet en fin de compte réellement à la personne de se rendre compte elle-même qu'elle peut être capable de mettre un préservatif ou de prendre la PrEP correctement pendant un mois et bien sûr aussi de se dépister puisqu'elle se trouve ses propres arguments, tout simplement. Après, on lui explique un peu ce que c'est que la phase de primo-infection. Il y a tout un petit article là-dessus. Et puis, il y a le fameux contrat d'engagement moral. Et ce contrat d'engagement, en fin de compte, c'est vraiment l'objectif final parce qu'on sait qu'en faisant écrire quelque chose à quelqu'un, il va après se rappeler effectivement qu'il s'est engagé sur quelque chose, même si c'est pas juridique, bien sûr, là on n'est plus du tout dans le même registre que tout à l'heure, mais voilà, c'est un contrat d'engagement avec lui-même, quelque part. Et puis, donc, pendant cette phase de Break the Chain, cette campagne, on va proposer aux personnes, bien sûr, le dépistage rapide, donc à partir de demain, dans des vannes, la plupart du temps, dans des locaux, un peu tout ce qu'on racontait tout à l'heure, et aussi la vaccination contre l'hépatite A, puisque cette année, malheureusement, on a une épidémie très forte depuis le mois de juin. Heureusement, elle se tasse un peu, mais toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées contre l'hépatite A et qui ont notamment des rapports HSH, multipartenaires, il est très important de se faire vacciner ou au moins de réaliser une sérologie pour voir si on n'a pas déjà contracté le virus. Et à ce moment-là, on peut passer à côté aussi, parce que certaines personnes ne font pas obligatoirement...
ça peut être asymptomatique.
Voilà, ça peut être asymptomatique. Et à partir du moment où on a eu l'hépatite A, on est immunisé à vie. Donc ça, c'est important. Il faut quand même savoir qu'il y a eu en tout, là, depuis le 1er janvier 2017, il y a eu 338 cas d'hépatite A qui ont été notifiés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en sachant que 48% de ces hépatites A sont dans le Rhône, bien sûr. Et 80% sont des HSH.
Oui. Le virus de l'hépatite A n'est pas un virus qui se transmet spécifiquement par la sexualité, par les rapports sexuels, mais aussi par les eaux contaminées, par toutes sortes de choses, mais les rapports sexuels en font partie. Alors là, on revient un peu sur le problème d'IST, qui sont en recrudescence, en fait, depuis de nombreuses années, dans la population HSA, justement. Et c'est vrai qu'on parlait un petit peu de la PrEP. Et la PrEP est intervenue après le début de cette recrudescence d'IST chez les HSH. Mais ceux qui sont... Parce que la PrEP, ça soulève beaucoup de passion, quand même. Hein. Il y a aussi des opposants à la PrEP. Et un de leurs arguments dit « La PrEP fait que les gens abandonnent la capote. Et la capote protège aussi contre la syphilis, contre la bléno, contre l'hépatite A, etc. etc. » Et que la PrEP va favoriser au contraire cette progression constatée d'année en année. Il y a deux écoles, il y a les pro-PrEP, il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont contre. Je trouve que moi personnellement c'est un argument pertinent quand même.
Alors moi je suis très très ambivalent là-dessus, parce que je me dis qu'on n'a jamais sucé avec des capotes, hein, aussi bien les hétéros que les homos. C'est jamais arrivé ou quasiment.
C'est vrai que pour la syphilis, c'est conseillé.
Et donc, parce que la syphilis, clairement, ça se passe très facilement. Clairement, les IST, c'est avant tout la bouche. Clairement, les IST, c'est avant tout la bouche. Par contre, c'est vrai que pour les condylomes, le simple toucher rectal avec des doigts peut suffire pour la transmission. Donc. Je ne sais pas si c'est la PrEP qui fait qu'il y a plus d'IST aujourd'hui. Je pense que c'est surtout le fait qu'il y a un haut niveau d'IST déjà depuis maintenant presque 20 ans en France, qui a vraiment progressé, et c'est exponentiel. C'est le même principe, si vous voulez, que les contaminations au VIH. C'est-à-dire que si vous êtes à 6000 contaminations au VIH pendant plus de 15 ans, eh bien, à un moment donné, vous êtes de plus en plus de séropositifs. Et même s'il y a aujourd'hui une chance inouïe, c'est qu'avec le TASP et plus de 85% des personnes qui sont séropositives, par exemple au niveau des HCL, hein, des hôpitaux civils de Lyon, qui sont donc en soins au moins une fois dans l'année au niveau des hôpitaux de Lyon, c'est 85% qui sont en charge virale indétectable. Et comme vous le savez maintenant tous, hein, depuis l'IAS de cet été, il a été reconnu mondialement dorénavant qu'une personne séropositive qui est en charge virale indétectable, qui prend correctement son traitement antirétroviral, ne transmet pas le virus du VIH. Donc on a par contre cette progression de nouveaux cas chaque année de séropositivité, et c'est surtout la primo-infection, mais qui est liée aussi à l'apparition très importante d'IST, c'est-à-dire que la transmission aujourd'hui se fait parce qu'il y a des personnes qui sont en primo-infection, qui ne connaissent pas leur statut sérologique, et aussi parce qu'ils ont des IST d'une manière importante, soit de la gono, soit de la syphilis, avec un chancre, etc. Donc c'est vraiment ce foyer qui permet effectivement l'expansion de l'épidémie ensuite sur l'ensemble des HSH.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un délaissement total de la prévention, de certaines associations, de médiatisation? Enfin, le mot préservatif, on l'entend pratiquement plus. On regarde la télé, on va au cinéma, enfin, il n'y a plus personne qui parle préservatif. Moi, il y a un truc qui me choque. Là, la mode en ce moment, c'est des séries télé, quel que soit le type de la série télé. Il y a énormément de jeunes qui se passent des nuits entières dans les séries télé. Il n'y a jamais, je crois que j'ai peut-être une série télé où ils parlent du préservatif. Je crois que c'est Friends. Alors, jamais, 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 on ne parle de protection.
D'une manière générale, aujourd'hui, plus de 50% de la production de porno, elle est dite barbac, c'est-à-dire sans préservatif. Quand il y a des films avec préservatif, il y a souvent des débuts de pénétration sans préservatif, et puis le plan d'après, on voit qu'il y a un préservatif. Mais en aucun cas on a vu le mec ouvrir le sachet, le poser, etc.
C'est vrai.
Donc clairement on fait comme si ça n'existait pas. Je pense que plus la population hétéro, encore plus que la population homo, depuis des années et des années, a souhaité véritablement faire l'autruche, c'est-à-dire non, ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème, voilà. Vous nous en parliez tout à l'heure, on a quand même aussi toute une part de la population qui est quand même très conservatrice, et à partir de là, on se retrouve dans des situations où, voilà, quoi, le préservatif, c'est péché, quoi. On est encore malheureusement pour certaines parties de notre société dans ce fondement. Et voilà, c'est ça le problème.
Il va falloir conclure malheureusement, parce que l'heure tourne. On va parler du brunch, on va parler... Alors je voulais juste rajouter une chose parce que...
Oui, mais pour 45 secondes.
On va bruncher, voilà. Juste parler, parce que tu es aussi, tu es Corévi, Sébastien Cambeau, mais aussi Enips.
Oui.
L'Enips qui sera partenaire, mais on en reparlera, des événements, enfin, de l'actualité, comment appeler ça ? De l'événement du 1er décembre,
oui.
Voilà, qui aura lieu d'ailleurs le 5 décembre,
oui.
À la Mutualité,
oui,
et l'Enips est partie des associations organisatrices.
Alors, organisatrices, invitées, l'organisation... pour être présent, effectivement,
voilà.
Avec des stands. On va faire tout
voilà.
Ça.
Ouais, il y aura un forum associatif.
Une réunion de préparation de
c'est
tout ça.
Ça
dans peu de temps. Là. Donc, voilà. Et puis, par la suite, on reviendra aussi vous en parler autour du site d'action. On aura une très belle opération dans la rue Claudias, normalement.
D'accord.
En prenant toute la rue, comme on l'avait fait à un moment donné pour la rue Pizet.
Oui.
Il y a deux ans.
Oui.
Et voilà. Puis peut-être par la suite, ça sera pour d'autres rues. On essaye à chaque fois de trouver des petites rues sympas où on peut développer un événement autour du VIH, autour d'un événement.
Pour pas lâcher prise en fait par
voilà.
Rapport à tout ce qu'on disait, la banalisation un petit peu de la maladie, etc. Et du virus. Et puis du côté de Laurence, on mange, on boit, c'est ça, c'est la fête.
Alors on va l'écouter pour son brunch.
Ah bah, oui, non, mais juste, on en reparlera, oui, on en reparlera dans une autre émission. Du coup, bah, je reviens, c'est sur, par rapport à la PGL, en fait, avec le Live Station, donc, qui est un bar que beaucoup Lyonnais connaissent bien, on va organiser 4 événements dans l'année, entre 2017 et 2018. Le premier, ce sera le 1er novembre, ce sera un brunch, donc le mercredi 1er novembre, où notre amie avocate Agathe, qui est à côté de moi, interviendra. Ce sera, on va manger, on va boire un petit peu, il y aura des activités pour les enfants, et en même temps, il y aura Agathe qui répondra aux questions des parents et futurs parents gays et lesbiens.
Eh bien, voilà. Il ne reste plus qu'à remercier nos invités. Merci Agathe Lucot, madame l'avocate, d'être venue plaider chez nous. Et puis, merci Sébastien Cambeau, merci Raphaël Gréget, voilà, Corévi. Voilà, pour parler de santé sexuelle, vous reviendrez nous voir, tout le monde reviendra nous voir, tout le monde revient toujours nous voir.
Mais bien sûr,
on est bien reçus.
On est tellement sympa.
Ça va. Et puis, la semaine prochaine, donc, l'émission sera sous le signe de la transidentité, justement.
Parfait.
Voilà, bah, c'est tout. Mon petit Boris, merci d'avoir été là. Bah, est-ce que ma chienne a été sympathique?
La chienne et moi, on va très très bien.
Elle t'a pas mordu, ma chienne?
Non, elle est...
Elle ronfle.
Elle est à côté, là.
D'accord. Merci à tous et à toutes. Tous les renseignements sur les réseaux sociaux de l'émission APGL, le site ESSLyon.fr.com, etc. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'écouter de musique, alors je meuble. Et je peux chanter, si vous voulez.
Pluriel gay.